Bonsoir tout le monde.
Bonsoir à tous et à toutes. Marc, on s'est pas vu la semaine dernière. J'ai eu un pépin en route parce qu'on fait nos émissions le plus souvent possible en direct. Puis mercredi dernier, j'ai goûté au transport en commun défectueux et mal organisé. C'est pas de leur faute, là. Il y a eu un petit déraillement sur la ligne de Saint-Jérôme, un déraillement de train de marchandises, semble-t-il. Avec tous les trains au retour à la maison ont été annulés. Fait que là, on nous envoie au métro. Tu prends le métro, tu te rends jusqu'à Montmorency. Puis là, tu t'aperçois que tu es derrière une belle rangée d'à peu près 800 personnes qui doivent prendre l'autobus pour aller à Sainte-Thérèse et Saint-Jérôme avec deux pauvres types. Mal préparé, puis je les plains, les pauvres types, là, ils étaient vraiment mal préparés. J'avais deux responsables à Montmorency, de l'AMT, je crois, qui avaient à contenir une foule de 800 personnes qui étaient très impatients.
OK, il n'y avait pas des autobus en surplus, il n'y avait pas prévu, ben, en tout cas prévu, c'est dur à prévoir, le déraillement, mais...
Oui, mais
il n'y avait pas de situation d'urgence qui
Ben, leur plan de contingence, je ne sais pas s'il y avait vraiment un plan de contingence, là, mais c'était intéressant de les voir rusher comme des malades. Puis bravo à eux autres, hein, parce que les deux types qui étaient là pour essayer de contenir la foule, là, ils étaient patients, mais pas à peu près, je leur lève mon chapeau. Très professionnel, mais un peu démuni, disons, ça aurait pris au moins une dizaine de personnes pour contenir ça, tu sais, parce que tu sors du métro, puis tu arrives sur le quai d'attente où tu devrais avoir peut-être, je sais pas moi, 50 personnes en attente, là, tu sais, qui est rempli d'autobus, puis t'en as 700-800, là.
Yeah.
Faut-tu te dire une affaire qu'il y en a qui sont pas très respectueux, puis qu'ils suivent pas ils suivent pas la ligne, puis essayent de couper partout, puis d'engueuler les pauvres types qui essayent de faire le contrôle des foules. C'était vraiment pas cool. Là. Fait que ça a juste pris 5 heures, centre-ville, chez moi.
Et là là.
5 heures. Aïe, aïe.
Aïe, aïe, certain.
Ouais. Puis là, ils ont un plan de contingence, c'est d'avoir des autobus spéciaux qui ressemblent à des autobus d'écoliers, là, tu sais.
Ben oui.
En tout cas, ils ont bien fait ça quand même.
Ils en ont eu, à fin de compte, des autobus?
Bien, ça a pris trois quarts d'heure avant que les autobus arrivent, tu sais, le temps les commander. Puis, évidemment, si tu demeures, si tu dois prendre le train à Blainville, bien, ils déchargent soit à Saint-Jérôme ou à Sainte-Thérèse, là. Puis
ça prend des chauffeurs aussi, là, pour conduire ces autobus-là. Là.
Ça prend des
chauffeurs pour les amener ces autobus-là, là. Ça doit pas être évident.
Non.
À Montréal, s'il y a un contexte, c'est la même affaire qu'à Québec au niveau de l'emploi, s'il y a une difficulté à trouver des employés.
Oui.
Ils ont déjà, les compagnies de transport ont déjà des difficultés, je crois, à recruter des gens. Fait que je sais pas si eux, il y avait des gens qui étaient, où ils ont pris des gens qui étaient déjà, des autobus qui étaient déjà sur le circuit. Ils ont.
Je pense qu'ils ont appelé des minutes parce qu'il y avait une chauffeur, celle dans l'autobus dans lequel je suis embarqué, c'était une chauffeur, là, puis elle prenait ses instructions des types qui étaient là, en train de contenir la foule, puis gérer le superbe événement, là. Fait qu'il demandait où est-ce que je m'en vais, puis comment est-ce que j'y vais, tu sais. C'est comme Sainte-Thérèse, puis à partir de Sainte-Thérèse, ben, tu t'arranges avec tes problèmes.
Et wow. À partir de 50 à 800 personnes à gérer, ça fait du monde, là?
Oui, puis ça pousse, hein? Je vais te dire une affaire, ça pousse. Fait que tout le monde voulait embarquer dans l'autobus, puis là, ben, l'autobus est plein, puis t'as plein de gens qui sont debout aussi, tu sais. Puis moi, poli, puis courtois comme je suis, je les laisse pousser, puis je les laisse passer en avant de moi. Allez-y, mettez-vous debout. Fait que là, je finis par me retrouver le premier devant le prochain autobus. Ah là 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 là! Là, j'ai eu une belle place. Tu sais, au lieu de pousser puis faire le savage, je dis « OK, vous voulez passe en avant. Là, je sais pas, vous allez être debout pendant une heure et quelques. » Je suis en balance, tu sais. Ben, c'est juste à dire que quand il arrive des événements comme ça, les gens sont beaucoup moins courtois. Côté humain ressort.
En tout cas, voir lors d'une catastrophe.
Ah, je ne veux même pas l'imaginer, Marc. Je veux même pas l'imaginer. Tu sais, quand on voit ça aux États-Unis, le monde qui casse tout, là, puis qui se garoche, puis qui vole dans les magasins, là, mais je peux te dire que ça serait pas mieux ici, hein. Malheureusement.
Regarde, la dernière Coupe Stanley, ça n'a pas été très, très beau. Parce que je me souviens, là, en 93, ouais. Là, quand il y avait
Ils ont viré les chars à l'envers, ils ont mis le feu dans les chars de police. Puis. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est le côté humain, ça en prend juste une douzaine d'illuminés pour amener
contenir. C'est des casseurs qui font ça, c'est des gens qui n'ont pas rapport avec l'événement. Puis...
Non, ils n'ont pas rapport avec l'événement, mais ils en entraînent une méchante gang avec eux autres, par exemple. L'effet des foules.
L'alcool aussi, puis.
Ouais, c'est ça. Et bon, c'était mon éditorial pour la semaine. Ça fait du bien d'en parler, Marc.
Je te comprends, Sylvain. C'est des événements que moi, en tout cas, personnellement, je ne vis pas ici. Je ne prends pas le transport en commun, mais je peux bien comprendre que pour toi, qui es habitué à tous les jours de prendre le transport en commun, c'est essentiel que ça fonctionne pour avoir...
Oui.
Ça nuit un petit peu à la qualité de vie quand même, là, quand il se passe des choses au même.
Ben oui.
Ça arrive-tu souvent? Ou?
Ben, de ce temps-ci, ça arrive souvent qu'ils sont en retard de 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure. C'est régulier. Là. Toute la semaine, c'était l'enfer comme ça. Sauf que là, ça a été vraiment le top du top. Là. Prendre 5 heures pour se rendre à la maison. Là.
Parce que je sais qu'une ligne qui est perturbée, en tout cas, ça n'a pas rapport avec une ligne de ça, c'est une ligne privée. Là. Il y a une ligne du CN là, qu'il y a des, qui est bloquée à cause des communautés autochtones qui ont bloqué des lignes de train, là, de transport, la ligne de Colombie-Britannique.
Oui, ben écoute, Vaudreuil, c'est Vaudreuil. Candiac, je pense, c'est Candiac qui ont eu un chamboulement sur leurs horaires là, pratiquement toute la semaine dernière. À cause des
états. Ils ont tout annulé le transport ferroviaire parce que la ligne est bloquée. Il y a un blocus, là. Ils font c'est les Mohawks, puis en tout cas, qui sont comme solidaires à la cause des Autochtones. Mais, en tout cas, je ne vais pas m'avancer trop là-dedans parce que je ne suis pas.
Ouais.
Je rentrais là-dedans parce que ça a rapport avec le transport, voyons, par train, là.
Mm-hmm.
En tout cas, c'est...
Ouais, ça brosse. Ça brosse pas mal, le stinky, là, t'sais. Ça perturbe des habitudes des gens qui sont dans le transport commun, surtout en train, là. Quand ça fonctionne super bien, tu sais, mais quand ça coince, là, ça coince pas mal. Il n'y a pas de comment je pourrais dire, de contingence autre que de prendre l'autobus, là, tu sais. Puis ça, c'est pas génial. Non. Anyway. Fait que c'était mon éditorial. Mais encore merci de m'avoir écouté. Ça me fait du bien. Marc, j'aurais aimé ça faire un bref retour sur notre dernière entrevue avec Jérôme Alban, qui parlait du centre jeunesse emploi, puis son implication, puis la sienne, puis celle aussi de tous les intervenants qui font partie de ces centres-là. Ça m'a inspiré. Ça m'a inspiré, puis j'ai proposé d'inviter justement très, très, très bientôt en entrevue un groupe de jeunes avec un intervenant de centre jeunesse emploi de Huntsic. Je m'avance un peu, là, mais c'est déjà en cours, fait que je pense que ça... Pas je pense, je suis très, très fébrile à cette entrevue-là avec les jeunes pour avoir leur point de vue, là. Pas qu'est-ce que tu en penses.
Ah, ben, ce serait, oui, ben oui, tu m'en as parlé, on s'en est parlé un petit peu hors d'onde, puis oui, ben oui, hey, c'est toujours intéressant de rencontrer, surtout les jeunes, là, ce qu'ils ont à dire, puis souvent, c'est des témoignages qui vont être enrichissants, là, dans notre compréhension de tout ce qui se passe, là, à l'intérieur d'eux, puis tout ce qui se passe dans leur environnement immédiat, là.
Mm-hmm.
Ça va mener les gens qui écoutent ou puis nous-mêmes à une compréhension nouvelle de tout ça. Là, puis c'est toujours, je trouve ça toujours extraordinaire là, de rencontrer des gens puis qui nous témoignent de leur façon d'aborder divers événements qui se passent dans leur vie.
Mm-hmm. Ben oui, surtout d'avoir le point de vue des jeunes, hein, les ados. Puis, parce que
ça nous amène dans une toute autre réalité là, qu'on peut se faire. Là.
On a déjà été ados nous-mêmes, là, mais le contexte, en tout cas dans notre temps, c'était différent. Aujourd'hui, c'est plus. Il y a plus d'anxiété, il y a plus de stress, il y a plus de. Donc, j'ai l'impression qu'il y a plus de difficultés pour les jeunes aujourd'hui de prendre leur place puis de se retrouver. Là. Parce que la société est en plein chamboulement, on se le cachera pas, là.
Je sais pas si c'est un genre de voir, le questionnement. Je sais pas si les certains jeunes qui peuvent se questionner à savoir parce que c'est à ce que je me rappelle quand on a passé l'entrevue de François Gervais, puis sa façon, son petit exercice des affaires aux jeunes, à savoir la capacité à faire face à la société, puis société de consommation puis de performance dans laquelle on vit, de leur faire voir inconsciemment comment ils agissent là, face à ces problématiques-là qu'ils peuvent rencontrer. Là, tu sais, des fois, ça devient des tu agis inconsciemment. Hein? Comme on dit souvent, on suit la parade. Là.
Mm-hmm.
Et tu sais, si on... À savoir si ces jeunes-là qu'on va rencontrer, si eux commencent à se questionner là-dessus, vraiment. Là.
Mm-hmm.
À savoir s'ils veulent vivre dans une société qui ressemble à ça, là, au niveau de au niveau de... Parce que moi, je trouve que la société qu'on vit, c'est une société c'est sûr, de performance puis de beaucoup de biens, d'identification au bien matériel. Là.
Oui.
Identification à la réussite sociale.
Là. Oui, puis malheureusement, c'est... je pense que depuis que les réseaux sociaux se sont développés à vitesse grand V, je pense que ça aide pas tellement à améliorer la situation dans la société. C'est vrai que ça amène... encore plus de compétition, encore plus d'anxiété, tu sais. Je regarde aujourd'hui, tu sais, avec les jeunes, puis ceux dans 20 à 30 ans maximum, tu sais, avec les fameux influenceurs, là.
Oui.
Tu sais, le phénomène des influenceurs où ils performent, ils viennent riches, il y a plein de followers, puis eux autres, c'est les nouveaux gourous, dans le fond, hein.
Ben, moi, pour les influenceurs, je vais dire, je suis peut-être néophyte. Je voudrais qu'on m'explique un petit peu c'est quoi. Ben, en tout cas, quand on dit influenceur, ça veut sûrement dire que c'est des gens qui essaient d'influencer quoi, au juste, ou de quelle façon. Ou,
ben, des influenceurs.
Ça se passe, ça. J'ai jamais suivi quelqu'un qui.
T'en as différents types, là. Tiens, t'en as que ça va être des jeunes filles sur le maquillage, comment bien paraître, comment s'habiller, okay. Tu sais. Et qui vont influencer les followers à faire comme elles, tu sais, à se maquiller comme elles, à magasiner dans des magasins qui sont ses commanditaires. Ah, faut pas se leurrer, hein.
Quand ouais, souvent, ben oui, souvent, c'est comme toi qui font leur fric.
Ben, c'est exactement, tu sais. Ils disent, ah, ça, c'est bon, je l'ai essayé, c'est super. Non, c'est pas bon, c'est pas super. C'est parce que t'es payé pour en parler, tu sais.
Mm-hmm.
T'en as d'autres qui sont des influenceurs sur la chose personnelle. Comment est-ce qu'on appelle ça encore?
Les choses personnelles, je crois.
Croissance
croissance personnelle. Là,
croissance personnelle.
Coach de vie,
ça. Ça me fait grincer des dents. Anyway, j'en ai découvert un fantastique, un français, David, je le nomme pas complet, je suis David quelque chose. Là. Écoute, le type, il est super musclé, tatoué, la barbe, mon homme, on dirait que c'est une fausse barbe de Père Noël qu'il y a. Là. C'est bon. Un jugement de valeur que je fais. Oui, mais oui. Tu regardes, tu sais, la grosse barbe des hipsters. Moi, là. Pardon?
Au moins, tu es conscient de ton jugement de valeur.
Ben oui, certain. Puis je l'assume en plus. Parce que je l'ai regardé, puis j'ai regardé de proche. J'ai dit, c'est une fausse moustache, puis c'est une fausse barbe. Ça n'a pas de sens. Puis il est maquillé en plus. Tu sais, là, il est influenceur. Il a des 9 ou 10 millions de followers sur Twitter, tu sais. Puis il leur dit comment penser, comment manger, quoi faire. Ça s'appelle des influenceurs, mais ça s'appelle surtout une religion.
Ouais, des fois, ça frôle le gourou.
Ben, c'est un gourou, puis il se présente comme. Il y en a qui le voient comme un gourou aussi. Hein, dis-nous comment penser, dis-nous comment devenir plus meilleur, plus nous-mêmes. T'as pas besoin de devenir plus meilleur, plus toi-même. T'as juste à accepter qui tu es, puis de faire du mieux que tu peux, là, tu sais.
Commencer par découvrir qui que tu es. Là.
Ben, c'est parce que, tu sais, t'as un influenceur avec 9 millions. Tu vas-tu avoir 9 millions d'influenceurs dans le monde? Non, tu vas en avoir un, puis tu vas avoir 9 millions de followers qui se demandent comment faire pour devenir comme lui, tu sais. Donc, tu vas peut-être en avoir 10 qui vont réussir à être comme lui sur les 9 millions. Les autres millions, c'est du bétail qu'ils vont payer pour, là, tu sais. Moi, c'est en tout cas, c'est
ils sont jamais comme lui.
Ils sont jamais comme lui, puis c'est ça, c'est ce qu'ils vendent, tu sais. Faites comme moi. Mm. Mm. Non, ça me convient pas à moi, mais il y en a d'autres qui vont suivre, mais il y en a combien qui vont vraiment faire ce que lui fait, tu sais?
C'est
bon.
J'ai vu passer un petit article à un moment donné, puis je me souviens pas c'est quel artiste là, qui a inscrit ça, qui s'était marqué Instagram a détruit ma vie. Je sais pas si c'était un artiste ou si.
Je sais pas.
En tout cas, c'était marqué ça. Instagram a expliqué un petit peu qu'est-ce que Instagram a fait. Puis, parce que sur Instagram, je pense que c'est beaucoup des photos, hein, des événements.
Ben, oui.
Des photos de les gens qui se prennent en photo puis qui les mettent. Mais souvent, les photos là, sont retouchées. Hein, c'est des gens qui se prennent en photo. Puis là, les photos sont retouchées par de se retoucher.
Évidemment.
Là, comme tu disais tantôt, c'est comme un petit peu les influenceurs, mais une photo, ça peut influencer des jeunes filles ou des garçons. Mais souvent, c'est des jeunes filles, tu sais, avec la beauté. Puis l'impression que ces jeunes filles-là se mettent, là, tu sais, à. Ouais, à séduire ou à être, avoir une vision d'eux qui, des fois, qui sont biaisés un petit peu. Là. Ils regardent ces photos-là qui sont photoshopées, puis comme tu expliquais tantôt, essayent d'être comme la personne qui est la meilleure, entre guillemets. Là.
Ben non, écoute. Là,
ça met de la pression encore plus. Là.
Tu peux pas ressembler à ce monde-là. C'est du monde maquillé, arrangé. Quand ils vont faire une vidéo, là, ça va lui prendre 7-8 heures à faire la vidéo, puis 5 heures de montage, puis de tripotage, tu sais, avec des belles poses, tout le kit. C'est carrément irréaliste. Pardon?
Ouais, c'est pas des selfies, là. C'est vraiment des photos avec le système de lumière et d'éclairage.
Ah, ben oui, c'est totalement irréaliste. Puis tu sais, si tu prends ça à la légère, puis tu dis, OK, c'est le fun, j'aimerais ça, moi aussi, être célèbre et tout ça, tu sais. Mais il y a le culte de la célébrité aussi. Ouais, ça. Oh, ça, c'est dommageable, parce que quand tu réussis pas à être célèbre, qu'est-ce que tu penses qui arrive, là?
Oui, c'est parce que souvent, les gens qui sont célèbres, les célébrités, les artistes qui sont mondialement connus, leur valeur, souvent, ils mettent leur valeur dans le regard de toutes les personnes, de toutes leurs fans.
Là. Oui,
bien sûr. En tout cas, moi, je ne veux pas généraliser tous les artistes. Là.
Non, mais non.
Et c'est très important. L'inverse aussi, tu sais. Puis c'est ça qui devient compliqué, parce que quand tu perds... quand tu perds ton végétarien, puis tu ramasses tout seul chez vous, assis, puis tu as mis ta valeur dans tout ça, mais c'est compliqué, puis que tu peux te jeter dans des drogues. Puis des...
Il y en a qui sont célèbres, ça va super bien, puis ils se lancent dans des drogues et tout aussi. C'est toujours...
On parle de ces événements-là. Ça dépend toujours des pensées qu'on a aussi à travers ça. Là. Moi, je te parle, mettons, des artistes qui mettent toute leur valeur dans ça. Puis, comme tu dis, puis c'est vrai, là. Mais mettons, on parle de ces événements-là avec ce genre de pensées-là, mais ça amène souvent à des émotions qui ressemblent un petit peu à ça. Et on s'amène à des compensations, là, comme tu dis, à la drogue, l'alcool, puis ces choses-là. Mais... Oui. Il n'y a pas juste ce sorte de pensée-là qui amène à l'alcool et la drogue. Là. Il y a
d'autres sortes
de pensées.
Évidemment.
Dépendant des blessures, puis de comment tu gères, t'analyses ça, puis comment t'as tout analysé ça autour de toi. Puis
En bref, le message que moi j'essaie de partager, c'est essaye pas de ressembler à quelqu'un d'autre. Tu peux t'inspirer de certaines de ses actions qui, pour lui, ont été profitables. OK? Et positive. Tu peux t'en inspirer, évidemment, tu sais, mais de tenter de copier puis d'imiter un supposé gourou, là, en tout cas, quelqu'un qui s'identifie comme un gourou, puis que lui a la réponse à tout, puis que si tu fais que ce que lui dit, lui ou elle, on s'entend, OK? Que tu copies sa façon de faire, que tu vas devenir riche, célèbre, tu vas être heureux, puis tout va bien arriver dans la vie. Non, c'est pas réaliste. Faut pas s'accrocher à ça. T'sais, on peut s'en inspirer, dire wow, ok, c'est intéressant, il fait quelques affaires. T'sais, de se tenir en forme puis faire un peu de muscu, ben, c'est bon parce que tu entretiens ton corps, t'sais. De bien te nourrir, ça aussi, c'est une façon réaliste de vivre, t'sais. Mais tout le risque de dire que parce que tu vas te présenter sur Twitter avec des belles photos retouchées, que tu vas devenir riche et célèbre, tout le monde va courir après toi. Ça, c'est carrément mettre ta valeur dans les mains de l'autre, là, dans les yeux de l'autre.
Tu viens de dire la phrase qui est importante à comprendre. Là. Tu sais, c'est les choses, pourquoi tu les fais, là, c'est ça qui devient important. C'est la première personne qui est importante à travers ça, c'est toi. Les autres, ils sont là, ils passent. Là. Souvent, la plupart des gens qu'on rencontre sont de passage. Là. si on calcule, mettons, en pourcentage, là, des gens qui vont rester dans ton entourage et qui vont rester proches de toi, là. Oui. Souvent, on a des gens qui sont inconscients toujours, hein, qui sont là parce que tu es populaire. La minute que tu es plus populaire, oui, ils sont plus là. Ils vont en trouver un autre. Puis, mm-hmm. Et si tu mets toute ta valeur dans ça, puis comme tu as dit, tu n'as pas appris à te connaître et à te comprendre, ben, ça va quitter. Puis,
exact.
Là, puis aussi, c'est réduire un petit peu l'importance de tout ça. Là. C'est, on parle souvent de se prendre un petit peu moins sérieux. Là.
Mm.
C'est éphémère, ces choses-là. Là.
Tout est éphémère. Tout est impermanent. Que ce soit les belles journées à ton goût ou les journées difficiles avec les défis, tout est impermanent.
Ben, c'est important ça, de rendre ça conscient. Même pas conscient, mais je veux dire de tellement... En tout cas, je trouve que ça a une certaine importance de développer ça pour que ça devienne inconscient, ce genre de pensée-là.
Mm-hmm.
Que oui, les choses sont éphémères, puis oui, je fais ça, puis demain, ça peut arrêter. Là. Je pense à l'intérieur, mais ça devient sûrement moins dur, tu sais, quand on vit des moments difficiles. Parce que c'est irréaliste de croire qu'on n'en vivra jamais des moments difficiles. Là.
Oui, c'est irréaliste de croire que tout va toujours bien aller, puis qu'on va tous être célèbres, puis qu'on va tous bien vivre, puis qu'on va tous être riches. Qu'est-ce que c'est que la richesse, de toute façon, la richesse des biens?
Ben, c'est ça.
T'sais, de vouloir voyager partout dans le monde, tu penses que ça va te rendre plus heureux? Puis je sais pas. Ça dépend. Il y en a qui font des voyages partout dans le monde, puis qui apprennent. Puis tu sais, on dit que les voyages forment la jeunesse, là.
Quand tu fais de ton état d'esprit, lorsque tu voyages, je peux aller au bout du monde, mais ça veut pas dire que mon état d'esprit ne changera pas. Peut-être avoir un petit peu d'euphorie en arrivant, puis c'est ça, mais à un moment donné, ça revient, là, ton état d'esprit. Ça veut pas dire que quand tu pars avec un burn-out ou des dépressifs, que tu vas arriver dans un endroit, tout va se régler comme ça. Là.
Mm-hmm. On parle tu connais l'expression, on change le mal de place?
Ben c'est justement, c'est ben, ça.
Le mal est toujours là.
Le mal, il reste, là.
Mm-hmm.
Par expérience personnelle, là, c'est sûr, tu sais, j'ai fait des voyages comme ça, puis oui, c'était euphorique, mais à un moment donné, oups, les petites choses revenaient, puis
mm-hmm.
Je me sentais au même endroit, là. J'étais mm-hmm. dans un endroit différent, mais dans l'intérieur de moi, j'étais au même endroit. J'étais ici, à Québec. Là.
On fait juste changer mal de place.
Ben oui, c'est ça.
T'es mal ici, t'es mal là-bas.
Je pense que oui.
Mm. Incroyable, oui. C'est ça. Ouais,
dans... l'importance de faire plus souvent des voyages intérieurs que des voyages extérieurs.
Oui, effectivement, mais tu sais, la société, il y a beaucoup de paraître. Hein? Ça, c'est un peu partout dans le monde, c'est toujours le paraître avant l'être.
C'est pas évident, des fois, de faire des voyages intérieurs. Hein? Des fois, c'est difficile là, de se voir, puis de tel qu'on est, d'accepter telle chose, puis telle chose, d'accepter que souvent nos pensées sont souvent irréalistes. Mm. Puis, que ça nous mène là, ça nous mène dans des émotions, des états, là.
C'est des...
J'entends, oui, les émotions nous font réagir de toute façon, mais on oublie souvent, j'entends souvent des spécialistes, des intervenants qui sont interviewés puis qui parlent beaucoup des émotions, tout ça. Puis moi, oui, c'est vrai, les émotions, ça nous amène à des fois à...
Des actions qui sont...
Des actions qui sont...
Mm-hmm.
Et qui sont contre qui on est vraiment, là.
Mm-hmm.
On est vraiment, mais...
Donc, ils ne sont pas profitables. Là,
c'est ça, pas profitables. Je cherchais mes mots. Merci.
Mm-hmm.
C'est
mm-hmm.
Mais souvent, on oublie ce qui nous mène à ces émotions-là. J'entends vraiment les gens parler des pensées. Puis,
l'interprétation qu'on fait des événements. Puis,
la cognition, puis toutes ces choses-là. Tu sais, c'est, mm-hmm. Les émotions, ça ne vient pas comme ça. Là. Mais il y a quelque chose en arrière de ça.
On entend souvent parler de travailler sur vos émotions, accepter vos émotions. Oui, oui, je veux bien les accepter, les travailler, mais j'aimerais ça de savoir quels sont les déclencheurs de ces émotions-là. Parce que les émotions vont nous amener vers des actions. Puis si les émotions sont inadaptées, tu sais, si les pensées sont inadaptées, ça va créer des émotions qui sont inadaptées, ça va nous amener vers des actions qui sont inadaptées aussi. Tu sais?
La tendance, c'est de mettre un petit pansement sur l'émotion. Tu sais, puis, moi, je mets un petit pansement sur l'émotion. Bon, je change ça. On fait un peu de renforcement positif, mais on va pas voir, on gratte pas le bobo, comme on dit. Là.
Mais renforcement positif, on sait que ça marche pas. Hein? Ils ont fait ça longtemps dans les écoles. Je sais pas s'ils continuent encore, mais ça a été démontré que ça marche pas vraiment. Là, tu sais.
C'est difficile de gratter le bobo parce que ça réveille d'autres choses. On dirait qu'il y a comme une certaine peur de réveiller d'autres choses pour que que ça grossisse, mais pour que le bobo grossisse. Mais souvent, non. Si tu grattes plus profondément, je pense que tu vas vers la guérison. Plus que la...
Moi, j'appelle ça le principe. Là, quand j'en parle avec mes aidés, je parle du principe de l'oignon. Tu enlèves une plure d'oignon à chaque fois. T'sais? Puis à chaque fois que tu enlèves une plure de l'oignon, ben c'est sûr que ça fait pleurer un petit peu, hein? Fait que ça fait sortir tes émotions profondes, là, t'sais? Mais bon, tu continues à éplucher l'oignon, puis oui, ça te fait pleurer, mais quand tu arrives au cœur, par exemple, c'est là où tu te réalises puis que tu peux vraiment là, commencer à agir sur ta façon d'être, puis c'est surtout ta façon d'interpréter la vie, changer ta carte mentale, tu sais, d'aller au cœur du problème finalement. Là. Mais pour y arriver, il faut que tu en enlèves des pleurs, puis il faut que tu acceptes d'en pleurer une shot. Puis quand je dis pleurer, ça peut être pleurer physiquement, ça peut être à l'intérieur. Là.
Non, parce que souvent, des fois, on s'imagine pas que c'est aussi profond que ça, tu sais, qu'il y a autant de pleurs que ça. Puis quand on arrive à cette compréhension-là de nos émotions, la compréhension que notre émotion vient de quelque chose, vient d'une pensée, vient d'un endroit qui, des fois, qui est en dessous, qui est couché. Puis moi, je parle souvent d'un nuage. Là.
Mm-hmm.
C'est du travail intérieur. Là. D'essayer le plus possible d'y aller avec douceur, puis faire de son mieux. Puis, on parle souvent de se normaliser, puis de se dire que c'est normal, tu sais. Souvent, ça a été construit, ça, parce que souvent, la souffrance est tellement intense qu'il y a quelque chose, il y a une recherche de sécurité. On parle souvent d'une béquille, puis de quelque chose qui va nous empêcher de souffrir, parce que, tu sais, c'est sûr, hein, on parle souvent, nous, c'est pas la souffrance qu'on recherche, hein, c'est le bonheur, là, c'est le mal, le moins grave.
Ben, c'est ça, je te dis que tu es à la recherche du bonheur, c'est l'être humain qui recherche le bonheur, puis de l'autre côté, c'est de limiter ses souffrances.
Hein? Oui.
Effectivement.
C'est ça qui puis c'est certain hein, que quand on décide de faire un cheminement, c'est pas facile. Hein? Des moments qui sont pas faciles. Hein? C'est parce que comme tu parlais de l'oignon, puis c'est ça. Quand tu enlèves une couche, des fois, on est surpris là, qu'est-ce qui se cache en dessous de cette couche-là. Là. Au moins, on arrive à être conscient que c'est ça.
C'est pas un cheminement.
Qu'il y a possibilité de commencer à je peux pas dire guérir, là, mais à essayer de dissiper ça, ces pensées-là, puis les changer, là, les démolir. Hein.
Les démolir pour les mieux pour se reconstruire, parce que si tu changes tes petits, t'as ton inconscient, t'es à 90% inconscient, tu sais. C'est ta langue apprise, mais si tu veux changer ta langue apprise, il faut que dans le conscient, que tu puisses justement pousser, planter une graine puis arroser, là. Mais c'est ça, c'est tu enlever tes pensées qui sont irréaliste, ben, faut que tu les remplaces tranquillement avec des pensées plus réalistes, changer ta façon de voir la vie, changer ton interprétation, mais ça se fait pas du jour au lendemain. Une fois que tu as compris le principe, que quand tu es conscient, c'est pendant que tes moments conscients qui te permettent justement de te reprogrammer, si on veut, là, changer tes pensées qui sont irréalistes, puis eux, à force de dans les moments conscients, justement, d'être actif, ben ça va reprogrammer ton inconscient, ça va le remplacer par des automatismes qui vont être beaucoup plus adaptés, tu sais.
Mais c'est ça, parce qu'après ça, en plus, ce qui est super et qui est extraordinaire là-dedans, c'est qu'une fois que tu étais allé vers l'acceptation et la compréhension de tout ça, ben ce qui te faisait souffrir avant, ça devient plus un enseignement de vie, puis ça devient plus un catalyseur, puis un endroit où est-ce que tu peux aller puiser de temps en temps pour te dire, ben garde, ça, oui, peut-être que ça a été souffrant par moment, mais ça a été un enseignement, ça m'a aidé à passer à travers certaines affaires. Hein. Mm-hmm. Tu sais, puis on parlait d'oignon, mais un oignon, là, quand tu le croques, c'est amer comme ça, mais quand tu le fais cuire et tu le manges, des fois, c'est super bon. Fait que, tu sais, c'est comme, oui, il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce qui s'est passé. C'est, puis je me répète, mais des fois, on prend ça comme un enseignement de vie.
Mm-hmm.
Puis, tu sais, ouais, on s'en va un petit peu plus du côté spirituel. On peut dire que c'est ça nous a façonné. C'est la personne qu'on est aujourd'hui. Ça...
Marc, on est déjà rendu à la pause. Oh. Si tu le permets, là, je te coupe un peu, là, mais ça passe vite. Hein, on a...
ouais.
Et puis, ben écoute, on s'en va à la pause, puis on revient dans quelques minutes.
Parfait.